Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'avenir de Jean-Pierre Bemba. Certes, vous me direz que le mois dernier, l'ancien vice-président congolais a été acquitté par la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis par ses troupes en Centrafrique au début des années 2000. Mais une deuxième affaire l'oppose à la CPI. Jean-Pierre Bemba est accusé d'avoir corrompu et influencé pas moins de 14 témoins dans le dossier centrafricain. Hier, il comparaissait donc devant les juges. À La Haye. Reste à savoir évidemment quelle sera leur décision. Retournera-t-il en prison? D'autant que pour le bureau du procureur, il n'y a aucun doute. Cette manipulation de témoins a permis à Jean-Pierre Bemba d'obtenir son acquittement. Sera-t-il au contraire définitivement libre, comme le réclame son avocate? En tout cas, le débat est lancé. On en parlera ensemble durant l'heure qui suit. On est à 6 mois en plus de l'élection présidentielle. Si jamais Jean-Pierre Bemba est définitivement libre, se lancera-t-il dans la course à l'élection présidentielle en RDC? On en parlera donc 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, vous écoutez la radio, vous écoutez un journal, vous souhaitez un complément d'information et bien surtout n'hésitez pas, vous décrochez votre téléphone et vous nous appelez au 33 9 693 693 93 70 et nos experts, nos envoyés spéciaux, nos correspondants vous répondent en direct. Et justement, Binta Diagne, qui rentre tout juste de Nouakchott, elle a suivi pour vous et pour RFI le sommet de l'Union africaine. Elle est à mes côtés. Bonjour Binta.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Plusieurs questions justement sur ce 31e sommet de l'UA. Bouma, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Vous êtes à Nouakchott justement, nous vous écoutons.
Bonjour Binta et allez les Bleus.
Oui, allez les Bleus. On parlera football un peu plus tard dans l'émission, si vous le voulez. Allez-y.
Le sommet a parlé de plusieurs sujets dans l'autofinancement de l'Union africaine. Et quelles sont les étapes qui ont été franchies dans ce domaine? Et qu'est-ce qui empêche encore ce financement de se mettre en place?
Alors, Binta Diagne, c'est vrai que plusieurs dossiers ont été au centre des débats. Nouakchott, on a parlé évidemment des crises qui secouent le continent, de la zone de libre-échange continentale, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la corruption, mais aussi de cette réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine et notamment de son financement. L'Union africaine souhaite son autonomie financière. Où en est-on dans ce processus? Que s'est-il dit à Nouakchott?
Alors déjà, il faut replacer ce projet-là dans son contexte. Hein. Ce projet intervient dans une vaste démarche de mener des réformes pour alléger les lourdeurs administratives de l'Union africaine, pour la rendre plus efficace. Et les chefs d'État de la sous-région se sont rendus compte que plus de 80% du budget de l'Union africaine dépendait en fait de bailleurs de fonds étrangers comme l'Union européenne, la Chine, etc.
Et la Banque mondiale aussi.
Et la Banque mondiale. Mmh. Et donc ça pose problème en fait sur le fonctionnement, même sur le fond des actions que l'Union africaine
et même sur l'indépendance
et voilà,
de l'institution.
Sur l'indépendance de l'institution. D'où l'idée, l'un des projets lancés par Donald Kaberuka, qui était l'ancien président de la Banque africaine de développement, d'imposer une taxe de 0,2% sur les produits importés que chaque État choisit, sélectionne, que chaque État est censé appliquer. Ça, c'est vraiment très important parce que si tous les États ne l'appliquent pas, eh bien, l'Union africaine ne peut pas récolter tous les fonds qu'elle veut. Et donc voilà, cette taxe-là...
Et cette taxe-là ne concernera que les produits non africains, c'est-à-dire
que les produits,
les
non
produits européens, asiatiques ou américains.
Que les produits non africains que chaque État a au préalable choisi. Donc là où on en est aujourd'hui, chaque État a validé le concept. À valider l'idée. Maintenant, reste à l'appliquer. Alors, il y a 23 États qui l'ont déjà appliqué et pour eux, c'est très, pour certains, c'est très facile parce que cette idée-là, elle existe déjà dans certaines zones régionales, comme par exemple la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest ou encore la CEMAC pour l'Afrique centrale. Maintenant, reste à convaincre les autres États qui ne font pas partie de ces entités-là.
Et notamment des poids lourds.
Alors, on sait qu'il y a énormément de soutien. En fait, Les gros contributeurs du budget de l'Union africaine, ce sont l'Afrique du Sud, le Nigeria et d'autres pays. Mais ces pays-là n'ont pas encore adopté cette taxe-là. Mmh. Ça reste encore aujourd'hui très compliqué apparemment de les convaincre. Et c'est l'un des enjeux de ce sommet-là, c'était de convaincre ces États un peu gros poids lourds du continent d'appliquer cette taxe-là. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu et qui ne font pas partie forcément de tout ce mécanisme de l'Union africaine, qui sont plus liés à des politiques nationales. Parce qu'il faut savoir que chaque État doit faire ratifier par son Assemblée nationale l'introduction de cette taxe-là.
Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, seuls 23 pays appliquent cette taxe. 23, ça représente tout de même la moitié des pays membres de l'Union africaine.
Ça représente la moitié, mais d'après les calculs qui ont été établis, j'ai plus les chiffres précis en tête, par Donald Kaberuka, il faut vraiment que tous les États l'appliquent. C'est une taxe qui n'alourdit pas en fait la contribution de chaque État, au sens où elle ne puise pas directement sur son budget national. Donc les petits pays qui n'ont pas forcément de moyens ne sont pas handicapés par cette taxe-là, et ça leur permet finalement de participer aussi à leur manière au financement de l'Union africaine.
Autre question sur ce sommet qui s'est déroulé à Nouakchott. Bonjour Adji.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Gaoundéré au Cameroun. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, merci. Bon, Emmanuel Macron était présent au sommet de l'Union africaine afin de s'entretenir avec les chefs des États des pays du G5 Sahel sur des questions sécuritaires. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'était seulement Emmanuel Macron qui était présent parmi les présidents occidentaux.
Ah, seul Emmanuel Macron était là en tant que président français, mais il n'y avait pas d'autres chefs d'État occidentaux. Pourquoi ?
Réflexion bête, en fait, c'est un sommet consacré aux questions panafricaines et qui réunit... Le premier objectif, c'est de réunir les chefs d'État du continent. Donc, a priori, on devrait pas avoir d'autres chefs d'État d'autres continents venir.
Mais il y en avait qu'un. Et c'était le président Macron.
Il avait plusieurs agendas en tête. Il y a déjà les questions de sécurité. Il est venu pour discuter avec les chefs d'État qui font partie du G5 Sahel. Et donc, il est venu un peu relancer l'idée, parce qu'on sait que ça patine beaucoup, de la force militaire qui est au sein du G5 Sahel. Être présent et discuter directement avec eux, c'est aussi une manière de montrer sa volonté politique que ce projet-là aboutisse.
Il y a eu d'ailleurs un mini-sommet entre le président Macron.
Il y a eu un mini-sommet dans le sommet, il y a eu plusieurs tête-à-tête, plusieurs entrevues. L'autre point, mais qui reste encore un peu informel et très très politique, c'est aussi le soutien d'Emmanuel Macron affiché à la candidature de Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui voudrait briguer le poste de secrétaire général de l'OIF. Elle a eu son soutien à lui. Pendant ce sommet-là, elle a eu l'adhésion de l'ensemble des États africains en marge de leurs diverses réunions, qui sont prêts du coup à soutenir sa candidature. Et puis en fait, agenda proprement français, Emmanuel Macron effectuait une visite africaine, Nouakchott, et ensuite le Nigeria.
Ouais, effectivement. Et puis là, il a aussi été question de la question migratoire. Emmanuel Macron en a profité pour expliquer à ses homologues ce qui s'était dit quelques jours plus tôt lors du dernier sommet de Bruxelles des dirigeants européens. Merci beaucoup, Binta Diagne.
De rien.
D'être venu répondre à nos auditeurs sur ces questions concernant le sommet de l'Union africaine à Nouakchott. 10h19 à Paris, 33 9 693 693 70. Appelez-nous. D'autres questions. On va s'intéresser maintenant au statut des anciens chefs d'État en République démocratique du Congo. Bonjour Fred.
Bonjour Juan.
Vous avez des questions. On vous écoute.
En République démocratique du Congo, le Parlement examine une proposition de loi portant statut des anciens chefs d'État. Quel est le contenu de cette proposition de loi ?
Êtes-vous toujours là, Fred ?
Oui, je vous
dis. Très bien. J'ai cru qu'il y avait une coupure soudaine et brusque entre Paris et Brazzaville. Tout va bien. Florence Maurice va vous répondre. Florence Maurice, correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors hier, le Sénat a adopté ce texte sur les anciens présidents de la République en RDC. Que stipule le projet de loi ?
Alors, ce projet de loi offre d'abord des garanties sur le plan de la sécurité financière et physique. La Constitution prévoit déjà qu'un ancien chef d'État a le statut de sénateur à vie, mais pour l'initiateur de cette loi, eh bien, ce n'est pas assez pour tenir compte, je cite, de la reconnaissance due par la nation aux anciens présidents. Alors concrètement, elle prévoit que l'ex-président recevra une pension spéciale dont le montant sera fixé chaque année par une loi budgétaire. Cela pourrait être entre 50 et 75% de son salaire actuel versé une fois par an. Cela prévoit aussi une assurance santé pour lui et sa famille, un logement, un passeport diplomatique pour lui et ses enfants, deux véhicules de fonction, un service de sécurité comprenant au moins deux gardes du corps et une section pour garder sa résidence, et même, Juan, des indemnités pour les frais d'eau, d'électricité et de téléphone.
Et quel sera le statut pénal d'un ancien chef d'État ? Sera-t-il protégé juridiquement ou pourra-t-il être poursuivi ?
Alors, d'abord, la loi parle uniquement des infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions du chef de l'État. Donc, la limite entre les deux pourrait être sujette à interprétation. Ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Si des crimes ont été commis et découverts pendant le mandat et que des poursuites ont été engagées par la Cour constitutionnelle, mais qu'elles ont été suspendues puisqu'on ne peut pas juger un chef d'État en exercice, alors ces poursuites reprennent à la fin du mandat. Si les faits n'étaient pas connus et qu'ils sont découverts à la fin du mandat, idem, des poursuites sont possibles. En revanche, si les faits étaient connus et qu'aucune poursuite n'a été engagée pendant le mandat, alors là, pas de poursuite possible a posteriori. On voit bien que les sénateurs n'ont pas voulu consacrer l'impunité totale, mais si on regarde bien, dans un pays où la Cour constitutionnelle est considérée par beaucoup comme favorable au président en exercice, eh bien, ça limite quand même considérablement les possibilités de poursuite. Et d'ailleurs, l'initiateur de la loi, le sénateur Motinga, ne s'en cache pas, hein, puisqu'il dit « Avec cette loi, on ne cherche pas à régler des comptes, mais à favoriser l'alternance. » Il s'agit bien de rassurer les anciens chefs d'État sur le risque de poursuite pour qu'ils ne soient pas tentés, Juan, de s'accrocher au pouvoir.
Et est-ce que ça vaut aussi pour les crimes les plus graves qui relèvent finalement de la Cour pénale internationale ?
Alors, dans ce cas-là, la loi dit que les juridictions nationales ont primauté sur les juridictions étrangères. Hein, c'est aussi le principe de la CPI. La RDC est partie prenante au statut de Rome. Tout ça est assez classique. En revanche, est-ce que cela signifie que les garanties qu'on évoquait à l'instant s'appliquent uniquement pour les crimes de droit commun et pas pour les crimes les plus graves ? Eh bien, la loi n'est pas très explicite sur ce point. Et s'il y avait débat, eh bien, ce serait là aussi à la Cour constitutionnelle de trancher.
Fred, vous avez une autre question, il me semble.
Ok. Alors, cette proposition de loi existe depuis 2015. Pourquoi l'examiner et l'adopter dès maintenant ?
Ah, pourquoi 3 ans ? C'est vrai que ça fait 3 ans, Florence Maurice, que ce projet dormait dans les cartons.
Oui, et le parcours de ce projet de loi est intéressant. Présenté en 2015, le mandat du président Kabila doit s'achever alors en décembre 2016. Le calendrier semble logique. Et la proposition suit d'abord un parcours assez classique. Elle est jugée recevable, va jusqu'en commission pour mise en forme. Et puis ça bloque. Plusieurs sénateurs évoquent des pressions politiques à l'époque au plus haut niveau de la RDC, car le texte est perçu comme une tentative de pousser Kabila vers la sortie. Il est donc mis au placard. Alors finalement, en 2017, il y a une commission spéciale qui est créée pour le réexaminer, mais là aussi ça traîne beaucoup. Et c'est finalement, vous l'avez dit, au tout début du mois de juin que les choses s'accélèrent à la demande de la présidence. Alors pourquoi maintenant ? Évidemment parce que l'échéance présidentielle approche. Pour autant, est-ce que ça signifie que le président Kabila ne va pas se représenter, hein, comme le soupçonnent ses adversaires ? C'est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions. Mais il y a un autre élément important qui peut expliquer cette précipitation. En juin, toujours selon le sénateur Mutinga à l'origine de la loi, la présidence elle-même a essayé de faire passer un amendement pour élargir les garanties à ce qu'on appelle les chefs de corps, les patrons donc de la DGM par exemple, la Direction des Migrations, ou encore l'Agence Nationale de Renseignement. Bref, l'entourage proche et stratégique du président. Le débat a été très tendu au Sénat sur ce point. Le sénateur Mutinga a même dénoncé une tentative de passage en force illégale de la part de la présidence. Et finalement, eh bien, cet amendement a été rejeté. Voilà, ce qu'il a emporté, c'est que si cette loi doit être faite pour favoriser l'alternance, elle doit se limiter à des personnalités élues et non pas des personnes nommées pour consacrer une sorte d'impunité générale.
On aura peut-être l'occasion d'en parler demain avec les auditeurs dans la Libre Antenne. Le vendredi, vous le savez, vous commentez l'actualité de votre choix. Vous êtes en République démocratique du Congo et vous souhaitez justement réagir à ce projet de loi sur le statut des anciens chefs d'État dans votre pays. Rejoignez-nous, inscrivez-vous dès maintenant, 33 9 693 693 70. Florence Maurice, bonne journée à Kinshasa. Fred, bonne journée à Brazzaville. Il est 10h25 ici à Paris, on repasse au standard, nous allons en Côte d'Ivoire. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan, bonjour à tous et bienvenue à Boafoulé dans la Malawi.
Ah très bien, à 300 km au nord d'Abidjan, je vois tout à fait où se trouve cette ville. Vous avez des questions sur le premier supercalculateur de Côte d'Ivoire?
Oui, c'est bien cela.
On vous écoute.
Alors, mon pays, la Côte d'Ivoire, vient de se doter d'un supercalculateur après l'Afrique du Sud en 2016. Alors, à quoi servira ce supercalculateur? Quel est son coût? Et était-il indispensable que l'État ivoirien se procure un tel instrument?
Oui.
Et pour finir, pourra-t-il assurer son entretien et sa consommation à l'énergie?
Alors, on parle là d'un ordinateur capable d'effectuer des calculs complexes à une vitesse extrêmement rapide. Bonjour Stéphanie Aglietti. Stéphanie Aglietti, correspondante de RFI en Côte d'Ivoire. Êtes-vous avec nous?
Oui.
Ah, ça
bonjour
fonctionne.
Bonjour Juan, bonjour Blaise.
Et bienvenue sur l'antenne de RFI. Alors, il faut imaginer cet immense ordinateur. Ce sont 7 armoires pesant chacune 1 tonne. C'est donc un gigantesque appareil. Concrètement, à quoi va-t-il servir?
Oui, alors, vous l'avez dit, donc c'est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux qui vont permettre de simuler numériquement des phénomènes physiques très complexes. Alors, par exemple, le supercalculateur ivoirien a une très grande puissance de 322 teraflops, soit l'équivalent de plus de 10 000 ordinateurs de bureau. Alors il va être utilisé dans différents domaines, par exemple pour fournir des prévisions météorologiques plus fiables et ainsi mieux anticiper les phénomènes climatiques dangereux. La modélisation mathématique pourra aussi être utilisée dans l'agriculture, par exemple en créant des modèles pour simuler la croissance des plantes dans diverses conditions. Ça permettra une meilleure sélection variétale pour optimiser les rendements, par exemple. Donc, il y a énormément de domaines qui nécessitent d'effectuer des calculs mathématiques très complexes et pour lesquels le supercalculateur pourra être utilisé. Donc, il va permettre de développer la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement les instituts de recherche qui vont pouvoir l'utiliser, mais aussi des entreprises privées. Ce qui pourra permettre d'augmenter, par exemple, leur compétitivité.
Ouais. Alors, Blaise s'interrogeait sur le coût de ce super ordinateur.
Eh bien, ce super calculateur a été financé par un prêt concessionnel du Trésor français. C'est un prêt dont le taux d'intérêt est avantageux. Le contrat avec le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche est d'un montant total de 10,6 millions d'euros, soit 70,6 milliards de francs CFA. Ce chiffre inclut donc le prix du supercalculateur qui avoisine les 5 millions d'euros, mais aussi le montant des différentes prestations qui permettront l'entretien de ce projet pendant 5 ans. Donc pendant ces 5 années, grâce à cette enveloppe, l'entreprise Atos, qui a fourni le supercalculateur, va aider la Côte d'Ivoire à entretenir la machine.
En revanche, c'est l'État ivoirien qui va se charger de fournir l'électricité nécessaire à cet engin, un engin, rappelons-le tout de même, de 7 tonnes, et l'État va également devoir mettre la main au portefeuille, évidemment, pour financer le système de refroidissement.
Oui, et Blaise fait bien de poser la question, car effectivement, ce ne sera pas rien, en fait, d'alimenter et le superordinateur et le système de refroidissement. Le système de refroidissement est pour l'instant financé. Tout dépendra de son utilisation, mais à plein régime, ces deux éléments peuvent représenter une consommation d'environ 300 kWh, soit à peu près la consommation annuelle d'un réfrigérateur. Développer un système reposant sur l'énergie solaire devrait donc être une solution, en tout cas pourrait être une solution pour l'État ivoirien afin d'alléger la facture. Mais l'autre défi pour les autorités ivoiriennes va être aussi de s'assurer que cet outil soit bien géré sachant que, comme je l'expliquais précédemment, il va être mis à disposition de beaucoup d'acteurs. Il faut donc que ce soit fait de manière optimale.
Optimale. Donc il va falloir nommer effectivement une équipe chargée de gérer cet aspect. Merci beaucoup Stéphanie Aglietti.